C'est un échec spirituel, parce que voilà, Saül n'a pas réussi à demander pardon à Dieu, il n'a pas réussi à revenir vers Dieu, il s'est laissé entraîner dans cette spirale. Dommage. Et c'est un échec relationnel, parce qu'il aurait bien aimé retrouver cette belle relation qu'il avait avec Saül au début, et il aurait aimé garder cette relation qu'il avait avec Jonathan, son fils. Donc voilà, on comprend qu'il pleure. On comprend qu'il pleure, c'est un échec dans tous les domaines. Et ses sentiments doivent être un petit peu mélangés, parce que là maintenant, les gens qui étaient autour de lui depuis 10 ans, ils s'attendent à ce qu'il prenne enfin ce règne qui lui avait été promis. Le prophète Samuel avait dit, voilà, tu seras roi. Et Saül lui-même le savait, il lui avait dit d'ailleurs, oui, tu seras un bon roi, etc. On avait vu ça l'année dernière. Et... sentiment contradictoire dans son cœur, ça ne devait pas être évident. Comment est-ce qu'il va réagir? Chouette, je prends le trône. Où, quand, comment? Au risque de faire une guerre civile. Et j'aime beaucoup le texte, le chapitre 2, donc de 2 Samuel, chapitre 2. Après cela, donc on avait parlé de ça la semaine dernière, en quoi ça consistait, toute cette guerre, la mort de Saül et Jonathan. Après cela, David interrogea le Seigneur. Vous savez, alors on dit bien sûr, quand les choses vont mal, en tant que chrétien, on va prier. On va demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Mais après un succès, ou juste avant un succès, David interroge le Seigneur. Et je pense que c'est une grande sagesse là-dedans. Il aurait vraiment pu dire, ça y est, maintenant je vais enfin pouvoir rentrer dans le règne qui m'a été promis. Sa première réaction, il interroge le Seigneur. D'autres versions disent, il a consulté le Seigneur. Et je me suis dit, mais après avoir vécu tout ça, il est arrivé à ce que Dieu lui avait promis, et il interroge encore le Seigneur. Et je me suis dit, mais nous aussi, quand enfin on a ce que Dieu nous a promis. Et je pense même à Rodrigue et Ruth, qui ont depuis longtemps espéré avoir un poste comme ça. Et bien, ils se trouvent là, devant l'exaucement de prière. Et ben, je pense à eux aussi. C'est le moment d'interroger le Seigneur. Parce qu'ils pourraient aussi se dire, ah, c'est bon, ça fait tant d'années qu'on a prié, on est content, etc. C'est bon, on a. Et puis, pouf, allez, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on décide ci, on décide ça. Comme des grands. Et c'est sage, dans ces moments où Dieu nous exauce, nous donne enfin ce qu'on a demandé, de rester fidèle à ce qu'il nous demande. Et David interrogea le Seigneur. Et c'est ce que je souhaite aussi pour Ruth et Rodrigue, que maintenant, dans tous les choix qu'ils vont avoir à faire, parce que quand on déménage, j'imagine, ça fait tout un tas de choix nouveaux, hein, interroger le Seigneur. Et c'est bon de consulter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Qu'est-ce que je dois choisir? Il y a le choix de l'Église, il y a d'autres choix, hein, qui vont devoir être faits. Voilà, tous les choix de vie. On interroge le Seigneur, même si on est arrivé à un moment de sa vie où, ouf, super, Dieu a exaucé ma prière. Et David va consulter Dieu et il va demander, bon, les prêtres étaient avec lui, hein, les Lévites, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» Donc Juda, c'était sa tribu, c'était la tribu royale. Elle est devenue la tribu royale. Le Seigneur lui répondit, « Monte. » David demanda, « Où ?» À Hébron. Et David y monta. Et ça, c'est intéressant. Il ne se contente pas d'un truc vague. « Oui, tu retournes à Juda. Bon, alors moi, je vais choisir. » Dieu a dit, « Je vais à Juda. » Bon, c'est bien. Ben, je vais choisir ma ville, je vais choisir voilà, où je vais habiter, etc. Non, il va être précis. Et parfois, il faut être précis avec Dieu aussi. Il ne faut pas hésiter, Seigneur, tu es sûr que c'est le bon choix. Et le Seigneur vous le montre de 36 manières différentes, vous savez bien. Soit par sa parole, soit Dieu va nous envoyer des gens qui vont nous dire des choses. On sent que c'est la bonne décision. Et il va être précis avec Dieu. C'était Yom Kisho aussi qui disait ça. Soyez précis dans vos prières. Ah, et c'est vrai que souvent, les petits-enfants, ils sont mignons, mais parfois, ils prient pour le monde entier. Et je leur dis, oui, c'est bien, mais pensez à être précis dans vos prières. Dieu n'est pas une substance quelque part dans l'air. Non, c'est aussi une personne avec un cœur. avec des idées très précises sur ce qui est bon pour nous. Et c'est bien d'être précis dans nos prières. Pas seulement, bon, je vais où, mais après, dans quelle ville? Et la réponse qu'il reçoit, c'est Hébron. Alors, c'est intéressant. Pourquoi Hébron? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Hein. C'est un lieu très important pour les patriarches. Alors, je vous signale qu'elle est toujours là, la ville d'Hébron. Hein. Donc, ceux qui vous disent que la Bible raconte des histoires et des contes de fées, il ferait bien de regarder un petit peu la géographie et l'archéologie aussi. Et la ville d'Hébron, elle est toujours là, oui. C'est un lieu très important parce que c'était un lieu où étaient les patriarches et les tombeaux des patriarches s'y trouvaient. Et je suppose qu'encore aujourd'hui, ça doit rester, voilà. Bon. Alors, c'était aussi une ville lévitique, c'est-à-dire c'était une ville un peu sacrée, mise à part, parce qu'elle était, quand le partage des terres s'est fait sur Israël, chaque tribu avait un territoire. Mais les prêtres, les lévites, n'avaient pas de territoire, mais ils avaient des villes, qui étaient des villes un peu spéciales, parce que Dieu pense à tout. Et il avait pensé aux gens qui, accidentellement, avaient commis un crime, mais sans le vouloir, avaient, par exemple, tué ou blessé quelqu'un. Et naturellement, bah, les gens étaient furieux, hein, il n'y avait pas les tribunaux comme aujourd'hui, et la famille de la personne décédée ou blessée pouvait se retourner contre celui qui l'avait fait, mais s'il n'en avait pas fait exprès, cette personne pouvait aller dans une ville lévitique, donc comme Hébron, une ville gérée par les prêtres, et être pardonner et être en sécurité et être protégé dans la mesure où il était bien prouvé qu'elle n'en avait pas fait exprès. Voilà. Il y avait des règles de société hein, qui étaient très claires à l'époque. Et David va donc aller à Hébron, une ville lévitique, c'est intéressant. C'est une ville qui avait beaucoup d'influence sur les villes environnantes. C'était une agglomération assez importante. Ils n'avaient pas encore les intercommunalités, mais Hébron, c'était un peu ça. c'est une ville... Juda, Hébron, c'est aussi la ville de la tribu de David. Et il se trouve que les anciens de Juda, de cette province, sont des amis de David. Et quand David avait remporté des victoires, il partageait le butin. Vous vous souvenez, on l'avait vu à la fin de l'année dernière, il partageait le butin avec les anciens de la tribu de Juda. Donc ils avaient gardé des liens très proches. Alors, on va continuer la lecture. David y monte donc avec ses deux femmes. Hein. Il avait pris sous son aile la femme de Nabal. On a fait l'histoire l'année dernière. À l'époque, c'était toléré. David fit aussi monter les hommes qui étaient avec lui, chacun avec sa famille, et ils s'installèrent dans les villes d'Hébron. Vous vous rendez compte que ces gens-là ont suivi David pendant près de 10 ans et ils sont allés d'un lieu à un autre pourchassés par Saül pendant, on va dire, à peu près 8 ans sur. Donc, enfin, ils ont un lieu. Alors, ils avaient à Tsiklag, mais vous vous souvenez que Tsiklag avait été brûlé juste quelques semaines avant. Ils n'avaient plus rien. Et là, ils vont enfin avoir un lieu. C'est dur, hein, 8 ans, comme ça, aller de lieu en lieu, sans pouvoir se poser. Et ils pensent aussi à tous ces hommes qui l'ont suivi, qui n'étaient pas loin de 1000 à l'époque. Hein, puisqu'au début, ça a commencé avec 600, etc. David fit monter les hommes qui étaient avec lui et il a pu enfin les établir autour de la ville d'Hébron. C'était important parce qu'on voit aussi que là, non seulement il consulte Dieu, mais il pense à ses amis, il pense à ceux qui l'ont soutenu, il pense à ceux qui ont été avec lui dans les moments difficiles. Il ne les oublie pas. Parce que maintenant, il pourrait dire, bon allez, je vais être roi sur la tribu de Juda. Allez, ils peuvent rentrer chez eux, tous ces gens qui m'ont suivi. Non, non, il les garde avec eux et il s'installe dans la ville aussi. Et les hommes de Juda, donc la tribu de David, vinrent et ils conférèrent l'onction à David pour qu'il soit roi sur la maison de Juda. Ah, pas sur Israël? Pourtant, c'était la promesse de Dieu qu'il serait roi sur tout Israël. Et encore aujourd'hui, hein, Israël a sur son drapeau l'étoile de David. C'est quelque chose de très symbolique chez eux. Pourquoi roi juste sur la tribu de Juda, juste sur une province? Pourquoi pas sur tout Israël? Alors, il y avait plusieurs raisons. C'est vrai que David avait reçu l'onction royale déjà par le prophète Samuel. C'était quelque chose qu'il avait fait en privé. Maintenant, il est reconnu par une tribu, donc deuxième onction royale, mais c'était seulement une tribu. C'est pas énorme. J'en ai parlé la semaine dernière, mais moi, c'est quelque chose qui me frappe chez David. Au départ, c'était un jeune berger, musicien, très courageux, hein, qui craignait Dieu. Et 10 ans après, le voilà chef militaire, un homme aguerri, qui a beaucoup appris de la vie, de la souffrance, de la trahison, beaucoup appris aussi de ses erreurs. Ça, c'est une grande force de David. Et on l'envie tous, hein, apprendre de nos erreurs, apprendre de nos fautes, apprendre de tout ce qui nous a fait mal. Je crois que c'est la grande force de David. Et c'est un truc que vraiment Dieu met toujours en avant quand on parle de David. L'homme qui savait reconnaître ses torts. Ça, c'est quelque chose qu'on admire chez David, qui ressort tout à fait dans l'Ancien Testament, le cœur de David. Parce que parfois, il y a des gens qui pensent, oh, mais David, le grand roi d'Israël. Et en fait, qu'est-ce que Dieu va mettre en valeur dans la vie de David ? Sa capacité à reconnaître ses torts et à demander pardon à Dieu. C'est une force. Alors il y a des gens qui vont dire, oh, mais c'est une faiblesse. Vous savez, il y a des civilisations aujourd'hui dans le monde où reconnaître ses torts, c'est une faute. Demander pardon en public, c'est une faute. Hein, vous connaissez ces différentes civilisations. Et dans la Bible, reconnaître ses torts, demander pardon, c'est une force. Alors c'est vrai qu'au début, ça peut sembler un peu faible. Oh là là, cet homme, oh, il a versé une larme sur ses fautes, qu'est-ce que c'est que ça ? J'en ai entendu un peu des choses comme ça. Ah oui, mes élèves me disaient, madame, c'est trop facile. On reconnaît ses fautes et pouf, on est tranquille. Et alors, je leur demandais toujours, parce que vous, ça vous est facile d'aller voir papa, maman et de dire, je me suis trompée, j'ai mal agi. Oh là, il y avait du silence dans la classe. Ils étaient beaucoup moins preneurs. Ben oui, c'est pas facile. Et c'est justement des hommes forts qui sont capables de dire j'ai eu tort. C'est des hommes solides. C'est des hommes qui s'appuient sur Dieu la plupart du temps. Parce que c'est très difficile, sans Dieu, de dire j'ai eu tort, j'ai mal fait. Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'une fois qu'on a reconnu ses torts, bah, c'est tout, ça s'arrête là. Tandis que quand on est chrétien et qu'on fait confiance en Dieu, qu'on sait que Jésus-Christ est mort pour le pardon de nos fautes, le fait de dire j'ai eu tort, j'ai mal fait, on sait qu'il y a un pardon derrière. On sait que, et éventuellement, même si les hommes ne pardonnent pas, Dieu pardonne. Et donc c'est une force extraordinaire pour un chrétien de dire j'ai eu tort, j'ai mal fait. Et c'est la force de David. Et on va le voir dans toute son histoire, ça va être sa force permanente. Il en a fait des bêtises. Misère pour un roi d'Israël, ça fait mal au ventre. Quelqu'un qui connaissait Dieu comme il le connaissait, qui connaissait la loi de Dieu et qui n'a pas arrêté de marcher à côté du chemin, de faire des grosses bêtises, de même élever ses enfants, on verra ça bientôt, dans quelques dimanches. Enfin bon, mais à chaque fois, il était capable de dire « j'ai mal fait, pardon Seigneur ». Et je crois que c'est là qu'il est notre modèle. C'est tellement plus facile de dire « c'est pas de ma faute, c'est l'autre ». On est humain, on est tous comme ça, hein. Mais la force de David, c'était ça. Et prions pour avoir cette force de David. Hein, je crois que c'est important dans les couples, dans les familles, voilà, dans tous les lieux où on va, hein, et au travail aussi. C'est tellement plus facile au travail de dire « oh, mais c'est le collègue qui n'a pas fait son boulot ». Et c'est quelquefois vrai, mais bon, attention, attention. Voilà. Ayons un cœur de David. Et ça, c'est un gros challenge. Hein. C'est réservé aux gens courageux. Parce qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup de courage. Alors, voilà, il est roi, tout se passe bien, mais là, première épreuve. Oh là là, c'est la vie ça, hein. Vous savez, je le dis tout le temps, hein. Pff, si on pouvait avoir une vie sans épreuve, ce serait bien, il y en a qui sont d'accord avec moi, c'est bien. Eh ben non, et à peine il est roi, il est là, il s'est installé à Hébron, j'imagine qu'il s'est trouvé une belle maison, il s'est bien installé et tout. Enfin, je ne suis plus poursuivi par quelqu'un qui ne rêve que de me tuer. Ah, quand même, ça change la vie après 10 ans de malheur. Et les hommes de Juda viennent le voir, on dit à David, donc c'est le verset 4, à la fin du verset 4, on dit à David que les hommes de Yabesh, en Galaad, avaient enseveli Saül. David envoya des messagers aux gens de Yabesh, de Galaad, pour leur dire, etc. On va juste s'arrêter là. C'est quoi cette histoire ? Eh bien, il se trouve que Saül, le roi Saül qui précédait David, donc, avait été tué au champ de bataille. Et les Philistins étaient tellement contents de l'avoir tué qu'ils se sont comportés comme des sauvages qu'ils étaient. Ils l'ont, je crois, plus ou moins découpé en morceaux, mis sa tête sur une pique. Enfin, vous voyez, ça existait déjà à cette époque-là. Et bon, c'était assez horrible pour le roi d'Israël quand même. Et les gens d'Yabesh, alors qui c'était ? Quand le roi Saül avait été nommé roi, c'était son premier problème, lui. Et là, il était encore très bien, Saül, et il rentrait des champs, c'était un roi humble et voilà, qui faisait sa vie. Et voilà qu'on vient lui annoncer que wow, les ennemis veulent venir attaquer Yabesh, et ils ont proposé un marché. Ah oui, c'est quoi ? Ah bah, tous les hommes acceptent de se faire crever un œil, et puis, comme ça, ils se soumettent, et puis on ne tuera personne. Saül lui dit quoi ? Mais vous n'avez pas accepté ça quand même ? Non, vous n'allez pas accepter ça. Saül était quand même... c'est ce jour-là qu'il s'est montré un excellent guerrier. Il a dit non, on ne va pas accepter ça. Alors évidemment, l'idée était claire. Hein, avec un œil crevé, on ne peut plus correctement tirer à l'arc. On ne peut plus se battre aussi facilement. On est tout le temps obligé de tourner la tête. Bon, c'était... Voilà. Il dit non, on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Il réunit une armée pour la première fois. Donc ça, c'était Saül, hein. Donc on est quelques années en arrière, et il va défendre la ville de Yabesh. En fait, il était très intelligent, il a fait une sorte de tenaille pour protéger la ville, et il a fait une sorte de tenaille autour des ennemis, et ils ont eu la victoire. Ils n'ont pas eu besoin d'avoir un œil crevé, c'est quand même bien agréable. Et les gens de Yabesh, ils s'en sont souvenus. Donc voilà que maintenant ils savent que Saül est mort sur le champ de bataille avec les Philistins, d'autres ennemis. Et ils se sont dit, non, on ne peut pas laisser ça. Vous savez, le respect des morts, c'est resté dans nos civilisations. D'ailleurs, on ne va pas laisser un cadavre traîner comme ça, coupé en morceaux, enfin bon. Et les gens de Yabesh ont dit, non, ça, avec ce qu'il a fait pour nous, on va prendre des risques. On va aller sur le champ de bataille, on va récupérer les dépouilles et on va s'en occuper. On va leur donner voilà, un enterrement correct, enfin, etc. Donc ils prenaient des risques parce que les Philistins traînaient encore, surtout après les batailles. Hein. Il y avait les gens qui venaient de dépouiller, récupérer le butin et tout. Et eux, avec énormément de courage, par reconnaissance pour ce que Saül avait fait des années avant, ils vont chercher le corps en prenant des gros risques, le corps de Jonathan et le corps de Saül. Et ça nous parle beaucoup de la reconnaissance. Les gens de Yabesh étaient peut-être conscients que Saül, à la fin de sa vie, il avait été dans une spirale descendante, mais... Il ne voulait pas laisser aux ennemis le bonheur de laisser le cadavre de Saül mangé par les corbeaux. Et ils ont pris des risques, par reconnaissance. Et je crois que c'est important. Par contre, on vient annoncer ça à David. Saül l'avait poursuivi pendant 8 à 10 ans. Comment il va réagir ? Et là, je pense que ses conseillers, ils ont dû... Parce qu'on vivait une époque où la règle était que le nouveau roi, parfois, supprimait tous les descendants et déshonorait les tombes ou des choses comme ça de celui qui avait lutté contre lui. Donc, ils n'étaient pas très chauds quand ils sont venus dire à David, les hommes de Yabesh ont enseveli Saül. Bien sûr, là, on n'a qu'une phrase, mais je pense qu'ils ont dû expliquer comment ça s'est passé. On a un autre passage qui explique comment ça s'est passé. Comment va réagir David ? Ouais ! Il pense pas à moi, avec tout ce que j'ai souffert. Saül m'a poursuivi, il a menacé de me tuer pendant des années. J'ai rien dit, je me suis laissé faire. Là, ça suffit qu'il laisse son cadavre, etc. Et puis, je vais leur donner une bonne leçon. Ce qui aurait pu très bien arriver avec un autre roi. Regardez la réaction de David. David envoya des messagers aux gens de Yabesh de Galaad pour leur dire « Soyez bénis du Seigneur, puisque vous avez agi avec fidélité, on peut dire loyauté, reconnaissance, envers Saül, votre Seigneur, et que vous l'avez enseveli. À présent, que le Seigneur agisse envers vous avec fidélité et loyauté, moi aussi, je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. » Là, on voit le cœur de David. Non seulement pas de vengeance, il aurait pu dire, ouais, bon, bah écoute, hein. Et puis vous allez voir ce que vous allez prendre, parce que franchement, là, vous avez gaffé, hein. Vous avez montré que vous étiez plus près de risquer votre vie pour mon ennemi. Là, vous allez... Pas du tout. Parce qu'il a honoré... Encore une fois, hein, on retrouve la même chose qu'on a vu la semaine dernière. Il a honoré l'autorité de Dieu dans Saül, malgré toutes ses fautes. Il a honoré la reconnaissance des habitants d'Yabesh. Et ça, il fallait un cœur rempli de Dieu pour le faire. Après 8 à 10 ans de souffrance, il pardonne. Et non seulement il honore la loyauté de ces gens. C'est des gens bien, ils ont risqué leur vie pour quelqu'un qu'ils respectaient. Il faut voir au-delà de son propre intérêt. Et ça, c'est quelque chose qui est touchant chez David. Souvent, il va voir au-delà de son propre intérêt. C'est sûr que ce n'était pas trop son intérêt, mais ce n'est pas grave. Il va voir au-delà. Il va approuver la fidélité et leur reconnaissance de gens qui ont honoré leur roi. Le roi qui leur avait sauvé la vie, évidemment. Par contre, il n'est pas complètement naïf. Il va aller jusqu'au bout, il les bénit, il les encourage. Mais il leur dit, prenez courage, soyez vaillants. Saül, votre seigneur, votre roi, donc est mort. Et c'est à moi que la maison de Juda a conféré l'onction pour que je sois roi sur elle. Il n'oublie pas de leur dire, maintenant c'est moi qui suis roi. Il ne fait pas celui qui, bon, bah écoutez, vous avez raison, voilà, je m'efface. Non, non, maintenant c'est moi qui suis roi. Il arrive à garder cet équilibre hein, entre la reconnaissance et la fidélité et reconnaître simplement la vérité. C'est maintenant, c'est moi qui suis roi. Donc il leur fait comprendre gentiment, hein, prenez courage, soyez vaillants. Votre roi est mort, mais c'est à moi que la maison de Juda a conféré l'onction. Maintenant, c'est moi qui suis le roi. Donc il arrive à le dire sans vengeance, sans méchanceté. Alors ça peut vous sembler normal, mais réfléchissez, il y a 3000 ans, ça ne l'était pas. Il y a 3000 ans, le nouveau roi, il fallait qu'il s'impose, qu'il impose le respect, quitte à ce que ce soit par la violence, par la vengeance, etc., pour que les gens le craignent. Et David, c'est là aussi que c'est une exception, historiquement, c'est une exception. D'accepter, ben oui, cet homme a été extrêmement méchant avec moi, mais vous êtes fidèle à votre roi, parce qu'il vous a fait du bien, et c'est bien. Capable de faire ça, ça veut dire qu'il n'était pas du tout tourné sur lui. Et bravo, c'est assez impressionnant. David n'a pas suivi les coutumes des rois de l'époque, tout au moins dans ce domaine. Dans d'autres, on verra la semaine prochaine. Mais dans ce domaine, non. Parce que les rois de l'époque voulaient asseoir leur pouvoir, quitte à supprimer les partisans des rois précédents. Vous savez, à chaque changement, c'est un petit peu vrai au municipal aussi chez nous, hein. C'est moins méchant. Mais quand vous n'êtes pas dans l'équipe qui a gagné, vous avez un petit peu peur pour votre permis de construire ou pour comment ils vont réagir quand je vais demander ceci ou cela à la mairie. C'est peut-être pas forcément vrai dans les grandes villes, mais dans les plus petites, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Ça, on s'est inscrit sur la liste qui n'a pas gagné. Maintenant, comment ils vont réagir envers nous? Mais il y a encore des gens qui ont de la droiture. On parle toujours de ce qui ne va pas. Mais je me souviens quand on a été élus dans mon village il y a des années. Et le maire savait très bien que j'étais chrétienne, et moi j'étais première adjointe. Et aussitôt après l'élection, on avait été élus magnifiquement bien. Et on a parlé dans le bureau, il me dit, il y a quand même des gens remarquables dans la liste d'en face. Ah oui, ce serait dommage de se passer de leur service. Et moi, comme j'étais responsable des commissions de travaux, il me dit, vous savez ce monsieur, il serait parfait pour la commission de travaux. Appelez-le, il va vous aider. Je ne vous dis pas la surprise de ces gens. Parce que ce qui comptait, ce n'était pas notre intérêt. C'était l'intérêt de la commune. Et il y a encore des gens comme ça. Il était croyant, je ne crois pas qu'il était très engagé avec le Seigneur, mais il était quand même croyant. Et ça m'a fait plaisir parce que j'ai trouvé tellement de sagesse. On ne va pas priver la commune de quelqu'un sous prétexte qu'il était dans la liste adverse. Bravo. Et je crois que voilà, c'est aussi notre fonctionnement en tant que chrétien, de toujours penser à l'intérêt, pas seulement de nous, mais des autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et même si, voilà, il y a des choses qui n'ont pas été importantes de dire qu'est-ce qui est bon pour la communauté, avant de qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour la communauté. Et il y a encore des gens comme ça. Espérons qu'il y en aura beaucoup à ces prochaines élections, d'autant plus qu'il y en a dans notre Église qui se présentent. Donc prions que dans tous les cas, voilà, ce soit dans la vérité et la droiture. L'intérêt personnel de David n'est pas passé en premier. Et pourtant, c'était un drôle de guerrier. Hein. Mais il veut, vous savez, mettons-nous à sa place il est roi sur une tribu. Il attend d'être roi sur le reste des autres tribus. Et il ne force rien. Curieusement, on va voir la semaine prochaine que ses copains, ils ont tendance à forcer les choses. Mais lui, il n'a pas forcé les choses. Il attend que les choses se présentent. Et il a une peur, visiblement. C'est la guerre civile. Que la tribu de Juda se trouve en guerre avec la tribu du roi précédent, qui était la tribu de Benjamin, et que ça soit un bain de sang. Il y en avait déjà eu dans le passé, il n'y tenait pas. Il voulait la paix et il attendait le temps de Dieu. Et ça aussi, je crois que c'est remarquable chez lui. Il a attendu le temps de Dieu. Donc, si Dieu tarde à vous exaucer dans certains sujets de prière, ne vous inquiétez pas, il répond. Mais le gros problème avec Dieu, c'est qu'il a son temps. Il y a plusieurs problèmes avec Dieu. Il y a « mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées ». Oh, donc ce n'est pas les mêmes, aïe aïe aïe. Et heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon il ne serait pas Dieu. S'il pensait comme nous, ce serait tragique. Regardez les dieux romains ou les dieux grecs qui vivent et pensent comme les hommes, qui s'entretuent, qui se jalousent, qui se volent les femmes, les enfants. Enfin, regardez un peu la mythologie quand vous avez vos enfants là qui récitent leurs leçons en sixième. Vous allez voir, c'est effrayant quoi. Les dieux grecs, les dieux égyptiens, les dieux des romains. Non, notre Dieu est complètement différent, ce qui pour moi aussi est une preuve de son existence. S'il est Dieu, il est forcément différent de nous, pauvres humains. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées, ses voix sont au-dessus des nôtres, et puis son temps, et ça c'est peut-être encore plus dur, son temps n'est pas le nôtre. Que Dieu nous donne de la patience en attendant les exaucements, parce que son temps n'est pas le nôtre. Mais il est bon, et la Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Seigneur, merci, parce que c'est vrai, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Merci de bénir chacun de nous aujourd'hui et de bénir particulièrement cette famille qui s'en va, qu'elle puisse vraiment te consulter, chercher tes voix et tes pensées, parce qu'elles sont forcément différentes des nôtres, souvent, et attendre avec patience les exaucements qu'ils ont encore à avoir dans leur famille, dans leur vie, dans leur travail, dans leur santé, et pour chacun de nous. Te prions de nous aider aussi à te consulter, à te rechercher, à chercher l'intérêt des autres aussi. Et Seigneur, que tu nous conduises à être des vrais enfants de Dieu, mis à part, consacrés pour toi, et qui vivent dans le monde en étant des lumières. Amen.